Secrets de plantes, une chronique à la rencontre des plantes sauvages en montagne par Lionel Scaturo et Cyril Bouvet pour apprendre à les découvrir, les identifier, les cueillir et les utiliser.
Bonjour Cyril.
Bonjour Lionel.
Alors aujourd'hui, on va vous inviter à partir en balade avec nous à la rencontre des plantes sauvages en montagne. Et nous allons parler du lierre terrestre, Glechoma hederacea.
Oui, et bien cette petite plante est assez discrète. On la remarque peu, hein, notamment en milieu forestier. Elle va s'étendre sur le sol et souvent, eh bien, on ne la remarque pas, sauf au printemps, quand elle commence à fleurir.
Et oui, parce qu'au printemps, elle va nous faire des tiges qui vont être verticales, qui pourront peut-être mesurer jusqu'à 30 cm, donc on les verra de loin, et ces jolies tiges seront fleuries avec de belles fleurs bleues, toutes petites, discrètes donc, comme disait Cyril. Mais par contre, elles vont attirer pas mal de pollinisateurs, et du coup, elles vont aussi attirer les cueilleurs, on va la voir de loin.
Et oui, et donc il faut savoir aussi que c'est la même famille que la menthe, le thym, le romarin, donc la famille des Lamiacées. Et elle n'a rien à leur envier, notamment pour ses vertus comestibles et médicinales. Donc ça vaut le coup de s'y pencher un peu plus près.
Oui, eh bien, cette famille, c'est la famille des Lamiacées. Et dans la famille des Lamiacées, ce qu'il y a de chouette, c'est que vous ne pourrez pas vous empoisonner. Elles sont toutes soit comestibles, soit médicinales. Il y en a peut-être une qui pourrait poser un petit peu de problème, mais ça, vous la trouverez dans notre livre. Mais pas méchant. En attendant, je vais vous parler de son port. Donc, le port de cette plante est toute l'année rampant, sauf au printemps, quand il va faire ses petites tiges de 10 à 30 cm à peu près. Sa tige sera carrée, légèrement velue. Ses feuilles sont en forme de cœur. Elles poussent opposées sur la tige et décussées. Alors, décussées, c'est quand chaque nouvelle paire de feuilles pivote de 90 degrés sur la tige. À chaque fois qu'on monte d'un étage de feuilles, elles pivotent toujours de 90 degrés. Ces feuilles sont bordées de petites dents au sommet arrondi et les nervures, elle a des nervures palmées. Les fleurs sont bleu violacé, tachetées de pourpre, très jolies, en forme de gueule de loup, ce qu'on appelle les gueules de loup, avec une lèvre supérieure et une lèvre inférieure.
Si on veut utiliser nos sens, finalement, qu'est-ce que tu nous dirais, que tu nous conseillerais?
Eh bien, justement, cette plante a une odeur un petit peu particulière. Et moi, je vous conseille d'en prendre une feuille, ou avec les fleurs, ou sans les fleurs. De toute manière, elle sent très bon. Et vous allez retrouver une odeur fruitée, avec une pointe d'amertume. Cette amertume, pourquoi vous allez sentir cette amertume? Parce que finalement, quand vous allez... Si vous la goûtez, alors déjà ne serait-ce qu'à l'odorat, en fait, vous allez le sentir, mais on pourra la goûter également et puis trouver ses arômes. On va trouver de l'arôme d'agrumes, d'où l'amertume. Mais pas que, en fait, cette plante est super intéressante parce que vous allez sentir l'humus de la forêt, des champignons, vous allez sentir de la menthe, un petit goût mentholé également, et voire même un petit goût d'amande, hein, les amandes de Provence, mon pays d'origine.
Et est-ce qu'on peut la confondre, cette plante finalement, qui est finalement, comme elle est assez discrète, en forêt, avec quoi on pourrait la confondre?
Avec tout un tas de plantes, malheureusement.
Ouais.
Bon, d'un autre côté, il y en a beaucoup qui sont comestibles aussi, comme le lamier pourpre, la lierre, la mauve, la violette. Mais celles-là, elles ne seront pas dangereuses. Par contre, on pourrait la confondre avec la véronique de Perse ou la ficaire. Bon, là, vaut mieux éviter de les manger, bien que la ficaire, on peut la consommer un petit peu, mais avant la floraison, enfin, c'est un petit peu compliqué. En attendant, pour éviter toutes ces confusions, le mieux, c'est de se reporter à la description et de la sentir. Hein, finalement, l'odorat vous parlera. Maintenant, peut-être que toi, tu vas nous dire un petit peu où est-ce qu'elle pousse, cette plante, et avec qui, et plein de choses comme ça au niveau de son état écologique.
Oui, donc c'est une plante, comme on l'a dit, qui est plutôt en milieu forestier. Elle va être dans les zones fraîches, les sols riches et humides. Et on dit que c'est une plante pionnière, hein, donc qui a tendance à s'installer dans les zones ouvertes, dans les zones qui ont été perturbées, travaillées. On peut l'observer jusqu'à 1800 mètres d'altitude. Et donc, comme on l'a dit, elle est rampante, elle aime la mi-ombre, hein, plutôt. Donc on la verra dans les chênaies, les charmées, les forêts en bord de rivière, ou les haies, ou encore les coupes forestières. Et puis donc, c'est une plante qui va être bio-indicatrice d'un manque d'azote dans le sol. Bon à savoir. Sinon, au niveau de sa biodiversité, elle a un nectar abondant et précoce, donc qui va être utile au, notamment au couvain chez l'abeille mellifère. Et puis aussi, ce qui est intéressant à connaître, c'est ça, au niveau de sa reproduction. Elle va se reproduire par le biais de ces tiges rampantes, qu'on appelle des stolons, qui vont former un nouveau pied, donc c'est en fait du marcottage naturel. Et de là, des nouveaux individus vont arriver, et finalement, ça va accélérer sa dissémination et son moyen de coloniser l'espace.
C'est chouette ça, surtout que c'est une bonne plante, parce que, bah écoute, elle contient pas mal de vitamine C, hein. Moi j'aime bien la proposer justement en disant, ouh, ça c'est bien, en vitamine, et mais après elle va contenir aussi des flavonoïdes, des huiles essentielles, des tanins, et peut-être que tu vas nous parler maintenant un peu de sa cueillette pour savoir comment est-ce qu'on peut la récolter, non?
Et oui, donc les feuilles sont cueillies toute l'année, avec une période optimale, hein, c'est entre avril et septembre, et faut savoir que pour son usage médicinal, on va cueillir plutôt les sommités fleuries en mai. Alors ça peut être au ciseau, à la serpette, à la main, un peu comme on veut, mais c'est vrai qu'elle peut avoir tendance à se déraciner rapidement, donc au ciseau ça peut être bien, et puis donc à la tronçonner, et si on va la faire sécher, il faut savoir qu'il y a des risques de brunissement, donc conseiller de faire un séchage rapide pour éviter cet aspect-là. Et puis sinon, au niveau culinaire, Lionel, qu'est-ce que tu peux nous dire cette plante qui m'a l'air quand même d'être intéressante pour cet aspect-là?
Eh bien... Ce qui est bien avec cette plante, c'est que par contre, si c'est juste pour la manger, on ne va pas parler de se soigner avec, mais on peut l'accueillir presque 10 mois dans l'année. Donc ça, c'est top. Et je parle 10 mois dans l'année dans les Bauges. Hein. Donc, je veux dire, on arrête de l'accueillir vraiment quand il y a de la neige. Du coup, moi, je vais la manger cuite ou crue, suivant la saison. Si les feuilles sont un peu plus abîmées, je la ferai plutôt cuire. Mais si les feuilles sont nickel, je veux dire, même en automne, je la mange crue encore. Elle se mange salée ou sucrée, elle s'accorde bien avec la vanille d'ailleurs. Mais en fait, comme elle est assez puissante en goût, il ne faudra pas forcément en mettre beaucoup. Moi, ce que j'adore faire, c'est du fromage frais au lierre terrestre. Alors, la recette est connue, mais ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est super bon. Donc, je vais récupérer à peu près 20 grammes de feuilles de lierre terrestre, je vais les hacher finement. Je vais récupérer, s'il y a des fleurs, je mets les fleurs de côté, parce que quand on est au printemps, il n'y a pas de problème, on garde les fleurs. On va mélanger tout ça avec du fromage de chèvre frais. Alors moi, ceux que j'achète, ils font environ 140 grammes, hein, c'est pour se donner une idée. 20 grammes de feuilles, 140 grammes de chèvre frais. Je rajoute 2 à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, je sale, je poivre, et je mets ça, je tartine tout ça sur du pain bien frais, c'est super bon. Et du coup, on rajoutera les fleurs, par contre, pour la déco. C'est chouette, c'est très joli.
Mais écoute, ça me plaît bien, moi.
Ouais, bah, je te le conseille, mais je crois que tu l'as déjà fait. Alors, et peut-être qu'après tout ça, par contre, toi, tu vas nous parler de la cueillette de printemps et des effets médicinaux. Là. C'est bien, ça, non? Des usages
ouais,
médicinaux.
Ouais, c'est une plante traditionnelle, ouais. En fait, de la pharmacopée. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle intègre le thé suisse. Alors le thé suisse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un mélange vulnéraire, c'est-à-dire qui va soigner les blessures, où il y a une quinzaine de plantes qui sont utilisées en cas de commotion, en cas de coup, en cas de blessure. Au niveau de ses propriétés, donc elle est cicatrisante, on dit aussi qu'elle est résolutive, antitussive et cholérétique. Qu'est-ce que ça veut dire cholérétique? Eh bien, tout simplement, c'est qu'elle favorise la production de bile. Donc c'est une plante qui va être très connue pour son action sur les affections respiratoires, notamment quand les muqueuses sont engorgées, et notamment en cas de toux grasse, de sinusite allergique chronique, ou de grippe, de bronchite, ce genre de choses. Donc on la prendra en infusion, en teinture mère, on peut aussi en faire une pommade vulnéraire. Et ce qui est connu, c'est son sirop. Donc le sirop pectoral, il a été inscrit au codex pharmaceutique français pendant très longtemps. Et donc je vais vous donner une petite recette de sirop pectoral qui va être, je pense, qui peut être utile. Donc là, vous versez 1 litre d'eau dans une casserole et vous chauffez jusqu'à frémissement. Vous arrêtez, vous recouvrez de 200 grammes environ de sommité fleurie, de lierre terrestre frais et haché. On laisse infuser toute une nuit, on filtre. On va bien presser les feuilles pour récupérer au maximum de produits. Et on ajoute environ 1,5 kg de sucre bio, de préférence. On chauffe en remuant jusqu'à dissolution complète du sucre. Et là, à chaud, eh bien, vous mettez en bouteille, stérilisée à l'avance. Vous fermez et vous retournez jusqu'à refroidissement. Et là, ben, on peut le conserver environ 1 an. Et puis, une fois qu'il est ouvert, ben, c'est à peu près 1 mois au frigo.
Et tu pourrais pas un peu nous parler d'une précaution d'emploi avec cette plante quand même, parce qu'elle est peut-être bien sympa, elle se mange, elle est médicinale, mais moi je crois qu'il y a des petits soucis quand même peut-être qui peuvent se passer.
Oui, il y a une petite ambiguïté en fait autour de la toxicité du lierre terrestre, donc liée notamment à un de ses constituants principaux, le pinocanfone, qui a priori serait à consommer avec modération, mais il y a assez peu d'études sur le sujet, enfin en tout cas pour l'instant les choses ne sont pas vraiment claires. Alors en aromate il n'y a pas de risque, mais sous d'autres formes, l'usage excessif pourrait entraîner une hépatotoxicité ou des problèmes de diarrhée, donc vraiment avec modération.
Tu parlais d'aromates, eh bien moi j'ai un petit clin d'œil à donner justement, des brasseurs d'une autre époque, jusqu'au à peu près 17e siècle, utilisaient le lierre terrestre pour donner une certaine saveur à leur bière. Et il faut savoir qu'aujourd'hui certains brasseurs amateurs, ou non d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus de brasseurs professionnels, ont essayé de retrouver ces saveurs d'autrefois et se remettre à la cueillette de lierre terrestre pour faire leur bière. J'en ai goûté, mais c'est pas mauvais.
Ah ouais, original. Ouais. Ok. Eh bien, merci Lionel.
Merci Cyril. À bientôt.
On vous dit à bientôt dans une prochaine chronique.
Retrouvez toutes ces informations dans leur livre « Le guide des plantes sauvages en montagne » paru chez Terre Vivante.